Radio TerraZen, la web radio qui vous éveille à la vie en toute simplicité.
Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Radio TerraZen et vous écoutez l'émission Histoire du soir, la 13e de la série avec Olivier Buirette. Et donc nous allons commencer dans un instant. Donc nous sommes aujourd'hui le 13 février 2017, l'émission est diffusée en léger différé ce soir pour des raisons techniques, elle passera en fait le 23 février. Et ce soir, nous nous penchons sur la dynastie des Mérovingiens, c'est-à-dire sur une période qui va nous emmener donc dans le vraiment le haut Moyen-Âge, hein, dans une période qui jouxte immédiatement, hein, si on peut dire, la chute, hein, de l'Empire romain. Et une dynastie qui, par bien des égards, première dynastie de ce qu'on pourrait qualifier comme étant la monarchie française, hein, première dynastie qui donc comporte bien des zones d'ombre, bien des mystères, bien des choses peu élucidées, car nous sommes, encore une fois, dans des événements qui remontent à un peu plus de 1,5 millénaire, 1500 ans, comme on va le voir ensemble ce soir. Alors, les Mérovingiens, déjà, qui sont-ils? De quoi s'agit-il? Alors, c'est une dynastie dans les livres d'histoire qui commence officiellement en 481, donc à la fin du 5e siècle de notre ère, avec l'avènement d'un personnage que tous les collégiens, les lycéens connaissent, hein, puisqu'il s'agit de Clovis. Clovis, donc, en 481, devient officiellement le roi des Francs. Alors, les Francs, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça fait partie de tous ces peuples qui ont déferlé sur l'Europe occidentale au moment de l'effondrement de l'Empire romain, hein, et qui, progressivement, bah, se sont fédérés entre eux en des royaumes, hein, qui vont devenir, hein, progressivement, eh bien, tout simplement, la carte, hein, de notre Europe médiévale, hein, avec les royaumes qui vont, pendant presque 2000 ans, hein, tout simplement, se partager l'Europe, hein, royaume et empire. Alors, cette dynastie mérovingienne donc démarre en 481. Je rappelle quand même qu'on est juste après, comme j'ai dit tout à l'heure, après la chute de Rome, hein. Je rappelle que Rome chute définitivement en 476 de notre ère, hein. C'est quand même pas très loin de l'année 481, hein. C'en est fini de l'Empire romain. Il n'y a plus d'Empire romain d'Occident, en tout cas, hein. L'aventure va se poursuivre à Byzance, hein, avec l'Empire romain d'Orient, on le sait. On a déjà parlé dans d'autres émissions antérieures, et ça va durer presque 300 ans, puisque un peu plus de 3 siècles, puisque tout cela se termine en 751, où cette dynastie étant tombée, comment dire, en désuétude, étant tombée en décadence, hein, on parlera tout à l'heure de ce qu'ont été ou pas été peut-être les rois fainéants, Eh bien, cette dynastie donc cède la place à des hommes nouveaux qui vont vouloir consolider l'immense royaume franc qui bientôt deviendra un empire, et qui sera la dynastie des Carolingiens. Pourquoi ce nom ? Bah, tout simplement à cause de Carolus Magnus, c'est-à-dire que nous connaissons tous sous le nom de Charlemagne, qui se fera couronner empereur romain d'Occident en l'an 800. Ça fait aussi partie des dates quand même que toutes et tous nous connaissons. Donc, dans l'historiographie, c'est-à-dire l'histoire de l'histoire, bah, les Carolingiens, c'est quand même un peu le début de l'histoire du Moyen-Âge, c'est quand même le 9e siècle, c'est déjà très reculé dans le temps, puis bah, on a un peu oublié effectivement cette première dynastie qui pourtant a existé, dynastie mérovingienne, et je renvoie à celles et ceux qui, ont une connexion Facebook et m'ont fait des demandes d'amis, qui sont dans notre réseau sur Facebook, de regarder les photographies que j'ai mises d'une exposition très intéressante qui s'est tenue pendant les vacances de Noël au musée du Moyen-Âge à Paris et qui concernait précisément les arts mérovingiens. C'est extrêmement intéressant de redécouvrir toute cette civilisation des Francs, donc du 5e siècle de notre ère, qu'il s'agissait vraiment d'une civilisation très intéressante et d'un peuple tout à fait brillant qui va inventer en quelque sorte ce que sera le Moyen-Âge, l'époque médiévale. Alors, Clovis, couronné en 481, marque en effet le début de la fondation de cette dynastie. On va, dans un premier temps, faire quelques grands rappels chronologiques afin que celles et ceux qui écouteront cette émission pourront facilement se repérer. Il y a quand même des événements importants qui se passent durant cette période mérovingienne. Ensuite, nous évoquerons le règne de Clovis lui-même avec la fameuse affaire du vase de Soissons. Soissons, cette ville située au nord de Paris. Ensuite, nous aborderons quelques faits méconnus, ou moins connus, de la période mérovingienne. Et on terminera avec les frontières entre l'histoire et la légende, c'est-à-dire le 7e siècle, c'est à peu près un siècle avant la fin de la dynastie, qui s'éteint, comme on l'a dit, au milieu du 8e siècle. Avec tout un tas d'histoires qui nous relieront encore une fois en fil rouge, autour, bien sûr, des histoires mystiques, mythiques, réelles ou imaginaires liées à Rennes-le-Château, pour lequel je rappelle, nous avons toujours un projet d'émission à venir avec Cédric, que j'en profite pour le saluer évidemment ce soir. Alors, les Mérovingiens, qui sont-ils ? Alors, dans les livres d'histoire, on les a retenus comme étant une dynastie de rois décadents, de rois fainéants. Les rois fainéants, fainéantises, mais aussi fainéants, comme on dit souvent dans un certain nombre d'ouvrages, c'est-à-dire qu'on les a fainéants, on a néantisé dénigré systématiquement cette dynastie. Pour quelle raison ? Tout simplement parce que dans les livres d'histoire, vous savez, dans l'histoire romaine par exemple, l'histoire romaine est un patchwork de différentes sources, Tacite, Tite Livre, etc. Enfin, je ne cite pas toutes les sources qui existent. Et ces sources, bien sûr, sont écrites sous différents règnes d'empereurs. Et bien sûr, quand on passait à Rome d'une dynastie à une autre, dans l'histoire romaine classique, il était, de bonne aloi de dénigrer la dynastie ou les mauvais empereurs de la dynastie précédente. C'est un peu le même phénomène qui va se produire avec nos pauvres Mérovingiens qui ont évidemment l'insigne honneur, si je puis dire, d'être la première de toutes ces dynasties. Vous savez, Mérovingiens, Carolingiens, les Valois, et j'en passe. Il y a énormément de dynasties, les Capétiens, ensuite les Bourbons, énormément de dynasties qui jonchent toute l'histoire de la royauté, d'une part donc de la période franque, et puis ensuite après bien sûr du royaume de France. Et évidemment les historiens carolingiens, ceux de la période de Charlemagne, retiendront ce qui les intéresse bien sûr de la période précédente, des Mérovingiens, notamment Clovis, qui va, comment dire, à force de d'armes, tailler ce qui sera bientôt l'embryon de ce véritable empire, hein, presque un empire européen, pourrions-nous dire. Hein. Et puis, évidemment, on va considérer comme des décadents les derniers rois mérovingiens du 7e siècle et du 8e siècle, hein, tels que Dagobert, bien sûr, hein, ou d'autres personnages, hein, qui seront considérés vraiment comme vraiment de mauvais princes, hein, à l'exception, bien sûr, on le verra tout à l'heure, du cas de Charles Martel, hein, donc qui, tout à la fin de la dynastie, évidemment, s'illustrera dans un certain nombre de victoires militaires que l'on aura l'occasion d'évoquer. Alors, néanmoins, il se passe vraiment une série d'événements extrêmement intéressants pour l'histoire de France, tout simplement, hein, l'histoire de notre civilisation, de notre monde européen aux racines, incontestablement, évidemment, judéo-chrétiennes. Quand je dis judéo-chrétienne, je veux entendre par là qu'il s'agit de racines liées à l'Ancien Testament et au Nouveau Testament, c'est-à-dire à la Bible, c'est-à-dire à un monde qui va se structurer, hein, tout autour à la fois, eh bien, du pouvoir royal qui va se constituer, et bien sûr de la conversion, hein, de tous ces peuples francs à la religion évidemment chrétienne. Hein, la religion chrétienne, donc comportant l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est pour ça que l'on parle de racines judéo-chrétiennes. Hein. Il s'agit évidemment du texte de la Bible, entendu en ce qui concerne les chrétiens, c'est-à-dire les deux textes de l'Ancien et bien sûr du Nouveau Testament, l'Évangile de Jésus. C'est comme ça que va se fonder, hein, pendant des siècles, hein, toute l'histoire, hein, en tout cas du Moyen-Âge occidental, bien sûr. Hein. Il va de soi que là, on s'intéresse ici à l'Europe occidentale ce soir dans le cadre des Mérovingiens, hein, bien sûr. Alors, tout ça commence effectivement au 5e siècle, année 480, à la fin du 5e siècle, peu de temps après que Rome ait été détrônée de son rôle de capitale de l'Empire d'Occident. L'Empire d'Occident n'existe plus, l'Empire romain d'Occident s'est effondré, il est désormais partagé entre différents peuples barbares qui se fédèrent progressivement, hein, et qui vont constituer, comme j'ai dit tout à l'heure, les premiers états, hein, les proto-états, pourrions-nous le dire, de l'Europe médiévale occidentale. Et Clovis va évidemment avoir pour tâche très rapidement de constituer, de fédérer son royaume. Plus précisément, par un acte extrêmement important et fondateur, hein, en 498, hein, le 25 décembre, qui est tout simplement d'accepter le baptême, c'est-à-dire que Clovis, roi des Francs, se convertit, hein, abandonne, les idoles païennes, entre guillemets, du peuple franc pour se convertir à la religion chrétienne. Et il ne va pas se convertir par ce baptême n'importe où, hein, ni à n'importe quelle date. Hein. La date, c'est le 25 décembre, jour de Noël, c'est tout un symbole, évidemment. Et la ville, ça n'est pas rien, puisqu'il s'agit de la ville de Reims. Hein. Reims, hein, qui est située aujourd'hui à 20 minutes de TGV à l'est de Paris, hein, qui est quand même une ville extrêmement importante dans toute la culture de la monarchie française, parce que tout simplement, eh bien, c'est là, hein, que tous les monarques, pratiquement tous français, toutes dynasties confondues, hein, se feront sacrer rois, hein, dans la cathédrale de Reims. Alors bien sûr, en 498, il n'y a pas de cathédrale gothique à Reims, mais il y a déjà évidemment des lieux de culte chrétien. Et c'est là que Clovis, évidemment, se convertit. Il y a encore aujourd'hui conservé pieusement, dit-on, si toutefois il s'agit vraiment du véritable baptistère, hein, dans lequel Clovis a été baptisé. Est-ce le vrai? Je ne sais pas. On pourrait, tergiverser. Et puis surtout, Reims a cette symbolique énorme d'être la ville qui a reçu Donc, l'onction, hein, pourrions-nous dire, quasi sainte, hein, un véritable miracle, puisqu'effectivement, l'ampoule dans laquelle est contenue l'huile, hein, symbolique qui va permettre de couronner tous les monarques, eh bien, serait apparue, effectivement, cette huile de façon miraculeuse, et c'est à Reims aussi qu'elle sera conservée. Alors évidemment, tout cela, on est là au cœur de tout un tas d'événements majeurs, hein, des origines de l'histoire de France. Hein. Clovis, tout le monde sait qui il est, son palais aurait été situé, ou en tout cas l'un de ses palais, sur la montagne Sainte-Geneviève, à Paris, derrière, sur la colline actuelle du Panthéon. Hein. Et puis, évidemment, ce règne extrêmement riche, extrêmement intéressant, est marqué en 507, donc début du 6e siècle, par une victoire majeure, hein, contre les Visigoths. Les Visigoths, qui sont-ils? Eh bien, il s'agit de cet autre peuple barbare qui, après avoir pillé Rome, après avoir constitué un immense empire, eh bien, possédait, hein, une partie de cet empire dans le sud-ouest de la France. Et là, en 501, ben tout simplement, effectivement, en 507, pardon, eh bien Clovis va vaincre donc les Visigoths et tailler donc un morceau de plus de son royaume avec le sud, donc ouest, hein, de la France, c'est-à-dire une région recoupée aujourd'hui par l'Aquitaine, la Septimanie, la Gascogne, les Marches d'Espagne. Hein. Tout cela sont des régions qui vont progressivement tomber sous le contrôle de Clovis et de ses successeurs. Quand on regarde la carte, hein, effectivement, de l'expansion, hein, de l'Empire franc, carte que je mettrai éventuellement en ligne, d'ailleurs dès le 23, quand cette émission sera diffusée, c'est-à-dire dès le 23 février, on est impressionné effectivement par toute la série de dates qui, quand même, du 6e au 8e siècle, vont effectivement marquer les différentes conquêtes menées par Clovis et par ses successeurs mérovingiens. C'est donc pas du tout une dynastie de décadents, hein, comme les historiens carolingiens se sont amusés à le dire. Peut-être certains rois, comme on pense toujours au roi d'Agobert, hein, la fameuse chanson, le roi d'Agobert a mis sa culotte à l'envers, etc., etc. Bon, en fait, il s'agit d'une dynastie tout à fait remarquable, hein, et qui va effectivement progressivement tailler, en tout cas à travers l'Europe, hein, ce que sera le futur empire carolingien, hein, du 9e siècle que l'on connaît. En 510, c'est la publication de la loi salique qui a été en vigueur jusqu'à la période de l'Ancien Régime en France, hein, ça n'est pas rien non plus. 510, publication donc de la loi salique, hein. Et puis, en 511, eh bien, c'est la mort de Clovis, et là, évidemment, c'est un des problèmes évidemment de cette période mérovingienne, hein, un des problèmes qui est que, en effet, tout simplement, les rois francs, quand ils meurent, convertis au christianisme ou non, ont pour habitude de partager ensuite leur royaume. Et évidemment, c'est de ce partage, hein, à la mort de Clovis, hein, que la question se pose à chaque fois, hein, de la part de ses successeurs, de reconstituer bien sûr l'unité du royaume, même si c'est partagé entre des frères évidemment du monarque. Il s'agit évidemment à chaque fois de maintenir l'unité. On est très loin, hein, de ce que fera plus tard la transformation que fera plus tard Charlemagne au 9e siècle, hein, en transformant l'Empire, hein, en transformant en tout cas le legs franc, si on peut dire, le legs mérovingien, en le transformant, hein, en un empire centralisé, hein, rappelez-vous des missi dominici, des gouverneurs, etc., etc., hein, toute cette structure, on en est très loin sous les mérovingiens, mais il n'empêche pas qu'il y a une cohésion néanmoins de la dynastie mérovingienne, une cohésion franque, hein, qui fait que effectivement se constitue progressivement, hein, ce que l'on va appeler, hein, l'Empire franc, parce que on passe de territoire en 481, hein, quand Clovis accède au pouvoir, hein, qu'il va se convertir, hein, à des territoires qui sont à ce que l'on appelle à l'époque l'Austrasie. Hein. Et l'Austrasie de 481, hein, eh bien, c'est un pays aujourd'hui constitué entre les frontières est de la France et l'Allemagne actuelle, hein, avec les villes les plus occidentales qui seraient Metz, hein, par exemple. Metz, qui est quand même aujourd'hui une ville qui est à la frontière allemande, c'est pourtant la ville la plus occidentale de l'Austrasie, hein, avec au centre Aix-la-Chapelle, hein, c'est une ville qui sera importante sous les Carolingiens, au nord Cologne, hein, et à l'est Fulda, hein, et à l'ouest Tournai. Hein. On est là vraiment dans une géographie tout à fait différente de celle qu'on connaît, et les conquêtes bien sûr, que va mener Clovis, hein, de 481 à 511, vont évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, étoffer, hein, cette structure avec la Neustrie. Hein. La Neustrie, bah, c'est Paris et la Normandie, en gros, avec Reims, hein, donc, qui sera conquise en 486 par Clovis, avec également l'ajout du Souabe, hein, la région de Strasbourg, hein, que l'on appelle la Souabe à l'époque, 502, hein, avec également, hein, d'autres territoires limitrophes, hein, qui vont peu à peu entrer entre les mains, hein, de Clovis. Donc on l'a dit tout à l'heure, hein, l'Aquitaine, bien sûr, c'est très très important. Ce sud-ouest, hein, et tous les successeurs, hein, je l'ai dit, jusqu'au 8e siècle, hein, vont avoir de cesse que de rajouter des territoires. On arrive quand même au milieu à la fin du 8e siècle, au moment où la dynastie mérovingienne va s'éteindre, bah, à quand même une carte tout à fait honorable qui va au sud quand même du royaume des Lombards, hein, qui va être donc un territoire vassalisé, hein, avec quand même Rome, hein, Venise et Ravenne, hein, qui sont des villes particulièrement importantes dans ce haut Moyen-Âge, hein, surtout dans le cas de Ravenne. Et puis également, ça c'est pour le sud, hein, les marches d'Espagne en 778, la Gascogne en 778, la Septimanie en 759, hein, qui vont sécuriser en quelque sorte le sud, hein, de cet empire franc naissant, hein, contre bien sûr l'Espagne, hein, qui à cette époque-là, comme vous le savez, a été conquise, hein, par évidemment les peuples arabo-musulmans, hein, de l'époque. On en reparlera tout à l'heure avec la fin de la période et Charles Martel. Au nord, ça remonte quand même en 777 à la Saxe, à la Frise, hein, tous ces pays qui sont au bord de la mer Baltique. Hein. Et puis, à l'est, effectivement, après tout à l'heure, la Neustrie, la Bretagne reste totalement indépendante. Hein. Et à l'est, on va jusqu'à la Carinthie, hein, la Bavière et la Carinthie, 788. Et la Thuringe 774, hein, qui vont former les marches, hein, également de cet empire franc. Hein. Donc vraiment, on a une structure tout à fait considérable, hein, conquise par les Mérovingiens, et évidemment, dont bien sûr les conquêtes seront amplifiées et consolidées ensuite par la dynastie suivante, celle des Carolingiens. Alors, voilà en ce qui concerne les débuts, hein, de cette période. Alors, d'autres dates, bien sûr, celle de 639, avec la mort de Dagobert, et à nouveau Dagobert Ier, et le partage du royaume, hein, lui aussi, entre ses fils, on y reviendra tout à l'heure. Hein. Ensuite, on a la fin de la période quand même, que j'ai évoquée tout à l'heure, qui est intéressante aussi, puisque cette période se termine avec le phénomène du début du 8e siècle, le débarquement des arabo-musulmans en Espagne, hein, ce qui va entraîner des troubles différents parties du royaume franc. Hein. Et c'est en 716, quand Charles Martel devient le maire du palais d'Austrasie, hein, c'est-à-dire en quelque sorte le premier conseiller du roi, Que celui-ci va arriver à refédérer les armées franques, hein, j'ai expliqué, dans une situation bien différente de celle de l'Empire carolingien, avec une fractalisation permanente du pouvoir à cette époque-là, hein, rien à voir avec l'œuvre des Capétiens, de Philippe Auguste, etc. Tout ça, c'est très très loin. On est encore dans une période vraiment de royaume barbare en gestation, hein, pourrions-nous dire, bien que christianisé. Et en 732, c'est la fameuse bataille de Poitiers, hein, qui est bien connue, puisque c'est là que, en effet, Charles Martel, hein, qui régnera seul ensuite à la place du roi Thierry IV, qui va donc arrêter l'invasion arabo-musulmane à Poitiers. Ce sera un reflux qui va durer des centaines et des centaines d'années, puisqu'on sait très bien qu'une des dernières croisades, hein, la fameuse croisade de la Reconquista de l'Espagne, bah, se termine, hein, c'est une date qu'on a un peu oubliée, en 1492. Hein. 1492, c'est quand même pratiquement 1000 ans plus tard, hein, enfin à 200 ans près, 1492, hein, découverte de l'Amérique, mais aussi le moment où les princes chrétiens coalisés s'emparent de Grenade et mettent un terme à la dernière présence arabo-musulmane en Espagne. Donc voilà un peu pour les grandes dates de ce que je souhaite évoquer ce soir, hein, avec vous, chers amis. Alors Clovis, on en a déjà pas mal parlé, mais il faut savoir que c'est un prince va laisser sa trace dans l'histoire, d'une part par son baptême, hein, mais aussi par l'épisode que je ne résiste pas au plaisir de vous raconter, de vous lire ici, du vase de Soissons. Alors dans ce temps-là, nous disent les chroniques, hein, je tire tout cela des chroniques de l'époque de Grégoire de Tours, hein, qui a écrit une histoire des Francs, hein, donc il s'agit vraiment de sources du haut Moyen-Âge. Dans ce temps-là, l'armée de Clovis pilla un grand nombre d'églises parce que ce prince était encore plongé dans les erreurs de l'idolâtrie, référence bien sûr à une période avant la conversion de Clovis. Les soldats avaient enlevé d'une église, avec d'autres ornements du Saint-Ministère, un vase d'une grandeur et d'une beauté merveilleuses. L'évêque de cette église lui dépêcha des messagers pour demander que s'il ne pouvait obtenir de recouvrer les autres vases, on rendît au moins celui-là. Le roi répondit au messager « Suis-moi jusqu'à Soissons, parce que c'est là qu'on partagera le butin, et si le sort me donne ce vase, je ferai ce que désire le pontife. » Étant arrivé à Soissons, on réunit au milieu de la place tout le butin, et le roi dit en montrant le vase « Brave guerrier, je vous prie de vouloir bien m'accorder, outre ma part, le vase que voici. » Les plus sensés répondirent à ces paroles « Glorieux roi, tout ce qui est ici est à toi, et nous-mêmes nous sommes soumis à ton pouvoir. Fais donc ce qui te plaît, car personne n'est assez fort pour te résister. » Lorsqu'ils eurent ainsi parlé, un guerrier présomptueux, jaloux et emporté, éleva sa francisque, francisque évidemment emblème, hein, c'est une hache à double tranchant, hein, emblème des armées franques, éleva sa francisque et en frappa le vase s'écriant « Tu ne recevras ici que ce que le sort t'aura vraiment donné. » Tous restèrent stupéfaits. En effet, imaginez, mes amis, un simple guerrier, refusant de donner ce vase, le brise plutôt que d'avoir à le remettre au roi qu'il aurait remis ensuite, comme on l'a bien compris, au pontife ecclésiastique. Tous restèrent stupéfaits. Le roi dissimula le ressentiment de cet outrage sous un air de patience. Et après s'être fait donner le vase, il le remit au messager de l'évêque, gardant au fond du cœur une secrète colère. Un an s'étant écoulé, Clovis ordonna à tous ses guerriers de venir au champ de Mars, revêtus de leurs armes, pour les montrer brillantes et en bon état. Tandis qu'il examinait tous les soldats, en passant devant eux, il arriva à celui qui avait frappé le vase et lui dit « Personne n'a des armes aussi mal soignées que les tiennes. Ni ta lance, ni ton épée, ni ta hache ne sont bien entretenues. » Et lui arrachant sa hache, il la jeta à terre. Le soldat s'inclinant pour la ramasser, le roi leva sa francisque et la lui abattit sur la tête en disant « Voilà ce que tu as fait au vase de Soissons. » L'ayant tué, il congédia les autres après avoir de la sorte inspiré une grande crainte. Voilà ce que nous dit Grégoire de Tours. Alors bien sûr, il faut voir ici, à mon avis, deux aspects dans ce texte. Le premier, c'est incontestablement l'affirmation de l'autorité du roi. de son autorité et de sa protection du sacré. Puisque bien sûr, ce vase était un vase religieux. Et on ne peut qu'imaginer que dans cette chronique qui relate l'histoire du vase de Soissons, on ait une préfiguration, bien sûr, des prémices de volonté de conversion au christianisme, de la part, évidemment, donc de Clovis quelque temps plus tard. C'est un acte fondateur, en quelque sorte, fondateur de ce que sera plus tard donc cette monarchie basée à la fois sur l'autorité et sur la foi, qui sont évidemment des piliers extrêmement importants. Surtout si, et comme bien sûr en demi-teinte, se trouve derrière tout cela, bien sûr, l'auctoritas, c'est-à-dire l'immense influence latine, impériale romaine, qui marquera tout le haut Moyen-Âge, si ce n'est pas tout le Moyen-Âge entier. Il ne faut pas du tout imaginer, mes amis, le Moyen-Âge comme une période de rupture. C'est pas du tout une rupture, le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge est une continuation, si vous voulez, de l'histoire de l'Antiquité romaine qui se transforme et se prolonge dans une nouvelle forme de culture, à la fois chrétienne et à la fois se mélangeant aux peuples barbares qui vont fédérer et constituer cette Europe et ces royaumes, ces premiers royaumes chrétiens du haut Moyen-Âge. Il y a toute une continuité, certes, bien sûr, les invasions barbares, et un certain nombre d'ouvrages récents l'ont montré, surtout par rapport à l'actualité de ces dernières années sur les problèmes de migratoires que l'on connaît, de flux migratoires, de réfugiés, etc., de crise migratoire que connaît à l'heure actuelle l'Union européenne. On a voulu faire des comparaisons en disant voilà, c'est comme l'Empire romain, c'est la même chose. Certes, l'Empire romain a été submergé, mais sur des siècles, et pas sur des mois, des années, submergé effectivement par ces peuples barbares qui refluaient de l'Est. Et ils refluaient pourquoi ? Ben, ils refluaient ces peuples parce que il y avait derrière d'autres peuples qui les poussaient aussi venant d'Asie centrale. Pas oublier ça, c'est pas du tout parce qu'ils avaient envie de s'emparer de l'Empire romain ou de piller un monde prospère gréco-latin du bas Empire romain tel qu'on peut l'imaginer dans certaines imageries d'Épinal. Pas du tout. Il s'agit de phénomènes beaucoup plus complexes, mais qui vont mener à la naissance d'un nouveau monde, à une fusion. Clovis, roi des Francs, se convertissant un 25 décembre au christianisme, à Reims, réalise là un acte fondateur, une fusion, littéralement, de cette culture franque, de cette culture barbare, avec le monde chrétien occidental du bas-empire romain. Pas oublier que l'Empire romain, à partir du 4e siècle, c'est quand même bien avant, on est quand même avec Constantin dans une période qui est un siècle avant, la fin du 5e siècle, se convertit au christianisme. Et effectivement, on ne peut avoir qu'un phénomène de type fusionnel qui se produit à ce moment-là, et qui d'ailleurs est extrêmement intéressant, surtout sur le plan culturel, sur le plan artistique aussi. Et je vous renvoie encore une fois à cette exposition sur les Mérovingiens, qui est là, c'est terminé aujourd'hui, je crois, qui s'était déroulé au musée du Moyen-Âge, au musée de Cluny à Paris. Alors, cette dynastie mérovingienne, effectivement, on le voit, n'est pas du tout faite de rois fainéants ou de personnages décadents. Non, pas du tout. La période de Clovis et de ses successeurs est marquée par de brillantes victoires, par tout un tas de conquêtes, je les ai évoquées tout à l'heure, qui vont constituer un état énorme et bien plus grand, bien plus grand que la France, la Francie, pourrions-nous dire, en tout cas surtout l'ancienne Gaule, la Gaule gallo-romaine que nous connaissions. On va vraiment donc un peuple, une civilisation, une dynastie qui vraiment va marquer profondément l'Europe occidentale. Alors ce royaume des Francs mérovingiens était composé principalement à ses origines, hein, des Visigoths qui étaient dans le bassin du Rhône et de la Saône, hein, on a dit tout à l'heure, des Burgondes, hein, qui étaient dans le nord et dans l'est, sur la rive gauche du Rhin, hein, les Francs qui étaient au centre, Siagrius, fils d'Egidius et chef des Gallo-Romains, résidant à Soissons, hein, avait pris le titre de roi. Hein, les Francs occupaient alors un vaste territoire coupé par la Meuse, hein, on l'a dit tout à l'heure. Et cette dynastie, donc, qui va volontairement ou involontairement d'ailleurs vouloir elle aussi se trouver, hein, des comment dire des origines quasiment sacrées, hein, pourrions-nous dire, va faire remonter, hein, va vouloir faire remonter ses origines à un certain nombre de princes mythiques, hein, notamment à Pharamon et Mérové, qui sont des princes dont les origines se perdent dans la nuit des temps, les historiens ne sont pas d'accord sur leur existence, et qui auraient eu carrément des ancêtres qui seraient liés à l'Iliade et à l'Odyssée. Donc à des légendes homériques, hein. Donc on a toujours, hein, dans ces dynasties, c'est extrêmement intéressant de le voir, des volontés de faire puiser dans comment dire des origines très lointaines, hein, eh bien donc de légitimer en quelque sorte leur existence. J'osais-t-il que bon, la période qui suit, et encore une fois, on est dans des périodes extrêmement lointaines, hein, eh bien, va être suivie, pourrions-nous dire, de haut et de bas, hein, et donc, tant et si bien qu'on arrive vers donc notre période du 7e siècle, hein, et le règne du fameux roi Dagobert. Alors le fameux roi Dagobert, personnage tiré littéralement comment dire en épingle, tiré de dénigré, rappelez-vous de la chanson, j'évoquais tout à l'heure, hein, le bon roi Dagobert a mis sa culotte à l'envers, bon, etc., etc. Mais en fait il s'agit d'une période plutôt glorieuse de la période mérovingienne, parce que bien Dagobert, qu'est-ce qu'il va faire Dagobert Ier? Il va restaurer, ni plus ni moins, l'unité de l'Empire franc. Les sources nous disent, évidemment, que cette réunification durera 2 ans, c'est pas très long, mais Dagobert, en fait, c'est un grand règne, hein. C'est le règne vraiment de quelqu'un qui va restaurer, hein, en quelque sorte, l'unité de cet empire qui est sans arrêt, évidemment, suite aux problèmes de succession, problèmes de vassalité que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est évidemment constamment, hein, en danger, hein, de division. Et puis on en arrive évidemment aux sources qui étrangement vont nous mener dans nos histoires, une fois de plus, que j'avais évoqué déjà le mois dernier en parlant de Pierre Plantard, hein, vous vous en souvenez, hein, Plantard qui donc est à l'origine en partie de l'affaire du Mitter et de Le Château, hein, et qui lui-même, et on va l'évoquer dans un instant, s'estimait comme étant tout simplement un descendant, hein, de Mérovingien, ni plus ni moins, c'est-à-dire descendant de Dagobert II, hein, ni plus ni moins. Alors on va l'évoquer dans un instant. Alors, il y a effectivement toute une tradition historique, pourrions-nous dire, extrêmement complexe, qui, à défaut de Pharamon que j'évoquais tout à l'heure, ferait des Mérovingiens les descendants de la lignée du Graal, par exemple. Donc qui seraient proches en fait des descendants tout simplement de Jésus, hein, Jésus crucifié, etc. Vous rappelez l'histoire de Marie-Madeleine, de cette histoire parallèle que j'avais évoquée le mois dernier, et là effectivement on aurait peut-être une évocation de ce type. Franchement, les sources sont confuses et c'est vraiment lié à la littérature de ce qu'on appelle RLC. C'est là-dedans que l'on trouve ce genre d'allusion. Évidemment, pour cela, il faudrait se replonger dans les sources de l'époque. Or ce soir, bien sûr, vous l'avez compris, il ne s'agit que d'un topo historique que je fais sur les Mérovingiens, afin, comme d'habitude, que chacun puisse se faire sa propre opinion. Alors, avant de conclure ce petit point sur la dynastie des Mérovingiens, justement, on va se centrer sur la fin de cette dynastie, c'est-à-dire sur cette période du 7e, la fin du 7e siècle, au début du 8e siècle. Vous savez bien qu'au milieu du 8e siècle, on a dit tout à l'heure, la dynastie mérovingienne va céder le pas, notamment avec l'avènement de Pépin le Bref, en 754, on l'a dit tout à l'heure, et qu'à partir de ce moment-là, ça va être le début des Carolingiens, c'est une période de transition, et comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure dans la liste des conquêtes avec les dates, les Carolingiens vont poursuivre l'œuvre de conquête, et notamment ce sera Charlemagne qui notamment s'y collera, afin de consolider le noyau de cet empire dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, Dagobert II, de quoi s'agit-il ? Alors, Dagobert II, évidemment, on pense tous à Dagobert Ier, j'ai rectifié tout à l'heure en disant que c'était un grand règne, effectivement, qui avait restauré un empire qui était divisé. Dagobert II, lui, c'est un peu plus tard, ses dates de règne sont très courtes, 676-679, il naît en 652 et il meurt en principe assassiné le 23 décembre 679. Alors c'est le fils du roi franc Sigebert III, il régna sur l'Austrasie, sur le royaume d'Austrasie de 676 à 679. Et vers 650, le roi Sigebert, alors sans enfant, adopte le fils de son maire du palais Grimoald, qui s'appelle Childebert. Il en fait l'héritier de son royaume. Vers 652, à la naissance de Dagobert, donc de Dagobert II, Sigebert casse son testament et institue son fils comme seul héritier. En 656, le roi Sigebert III décède. Le maire du palais d'Austrasie, alors, Grimoald, fait tonsurer le jeune Dagobert. Évidemment, il n'a aucune intention que celui-ci prenne la suite de son père, et le prive de ses droits à la succession royale. Il l'exile, il charge l'évêque Didon, de Poitiers, de l'emmener dans un cloître en Irlande, et Grimoald répond alors le bruit de la mort de futur Dagobert II, et fait monter son fils Childebert sur le trône. C'est un pur cas d'usurpation typique de cette période. Vous me direz, il y en a eu bien d'autres dans l'histoire, oui, effectivement, mais là, c'est assez intéressant. Alors, notre fameux Dagobert va revenir ensuite en Gaule. Alors, tout ça, c'est des faits qui sont historiques, parce qu'il y a une vie, quand même, de Dagobert qui existe, une Vita Dagoberti qui existe, j'ai téléchargé, elle a été numérisée, elle est sur Internet, tout à fait facile à trouver, elle est traduite, et donc, ce Dagobert revient ensuite en Gaule, va revenir de son exil en quelque sorte, parce qu'il sait qu'il est de sang royal et que c'est un mérovingien, et que donc il veut en gros bazarder l'usurpateur. Et donc il revient ensuite en Gaule et règne en Austrasie. Le loyau central d'Austrasie, d'Eustrie, de notre empire franc dont on parlait tout à l'heure, de 676 à 679. Alors, selon la Vita Dagoberti, écrite à la fin du 9e siècle, il serait mort assassiné dans la forêt de la Vouivre, c'est-à-dire W-O-E-V-R-E, Vouivre, cette forêt qui est à l'est de Bar-le-Duc, à l'ouest de Nancy et de Metz, et qui est en pleine Lorraine. Donc, il meurt assassiné en 1679. Il aurait été enterré à Stenay, hein, une ville de l'Est aussi, de la France, hein, où il a été adoré, notamment au Moyen-Âge, comme un saint, notamment parce qu'il a été, pour un certain nombre de miracles, vous savez qu'à cette époque-là, les saints parsèment hein, littéralement l'histoire du haut Moyen-Âge, hein, et donc il aurait été donc fait saint, et on le retient, en tout cas, comme saint Dagobert II. Voilà pour l'histoire. Ensuite, c'est tout à fait autre chose qui émerge, puisqu'il s'agit de ce que l'on peut appeler, ou ce que l'on appelle communément dans les sources, la légende plantardienne. Hein, c'est-à-dire imaginée par, donc, par Plantard, donc, en théorie, donc, au XXe siècle, hein, Pierre Plantard, qui en 92 aurait reconnu que tout ça était une supercherie. Toujours est-il qu'il y a quand même là des recherches historiques assez profondes qui ont été faites par ce personnage, puisqu'il affirme que le fils de Dagobert II, qui ne serait pas du tout mort avec lui dans le piège qu'on lui a tendu dans la forêt de la Vouivre, eh bien, aurait pu fuir, aurait été protégé notamment par Saint Arbogast, qui est un saint relativement mystérieux de cette période, et qui l'aurait emmené dans le sud de la France, hein, dans la région du Razès. Hein. C'est quoi le Razès? Ben justement, hein, c'est cette région située donc dans les environs de Narbonne, Rennes-le-Château, etc. Hein. Cette région que l'on appelle le Razès. Il s'appelle Sigebert IV. Ce Sigebert IV, donc, qui aurait vécu de 676 à 758, aurait été le fils de Dagobert II. Et dans le fameux livre donc Le Trésor Maudit paru en 1967, eh bien Plantard affirme être le descendant de ce Sigebert IV. Tout simplement parce que pour le surnommer le rejeton ardent. Ce rejeton ardent, donc le plan tard, littéralement. Alors il eut une descendance, Sigebert V, et c'est une reprise, cette énigme est reprise dans le fameux livre de Begent, notamment Lincoln, que j'avais déjà cité précédemment, et qui est donc repris en 1982 dans le fameux livre L'énigme sacrée. Alors après on peut regarder la dynastie de tous ces personnages. Alors on a effectivement Sigebert V de Razès qui va de 695 à 763. J'ai fait quelques recherches moi aussi pour essayer de voir jusqu'où on pouvait aller. Ensuite ce Sigebert V succède Béra III de Razès, dit Trunco, de 715 à 770. Et enfin, ça se termine, et après les sources se perdent, Guilhem Braou de Razès, né en 738. Donc tout ça nous mène vers le 8e siècle, tout se perd, si ce n'est évidemment dans cette incroyable legs dont aujourd'hui on dit qu'il s'agit évidemment de faux artefacts qui avaient été faits par Plantard sous un pseudonyme à la Bibliothèque nationale qu'on appelle les dossiers secrets et qui, explique un peu toute cette histoire. Alors encore une fois, un peu comme dans l'émission sur le Da Vinci Code, j'insiste sur le fait que tout cela ne sont pas que de pures fariboles. C'est-à-dire que, on le voit bien, il y a une souche historique relativement conséquente dans tout cela. Il y a des sources, il y a des personnages qui ont réellement existé. Et puis il y a des choses bizarres, quand même, je ne vois pas comment les appeler autrement, que l'on trouve pourrions-nous dire, des artefacts historiques. Il y aurait déjà à s'intéresser à ce petit village aujourd'hui anonyme de Stenay à ce qu'a pu en raconter dans son Histoire des Mérovingiens qu'avait écrit Gérard de Sède en son temps, qui est évidemment un ouvrage qui aujourd'hui est situé dans des bibliothèques considéré comme paranormal, etc. Néanmoins, il y a, quels que soient des ouvrages historico-romanesques, pourrions-nous dire, quelle que soit l'approche, une réelle étude historique hein, qui est faite à la base. Ça, c'est tout à fait évident. Alors, évidemment, nous sommes un peu au tournant d'une certaine réflexion hein, ce soir. En ce qui concerne Dagobert II, je trouve extrêmement intéressant, et je l'avais évoqué déjà le mois dernier, qu'il figure dans la très vieille église de Saint-Romain à Sèvres, qui est une église qui passe en effet pour avoir été fondée au 7e siècle de notre ère. Il ne s'agit pas évidemment de l'église actuelle, qui est plus récente, hein, mais quand on voit cette église qui est extrêmement ancienne et que je vous recommande de visiter, très facile d'aller visiter Saint-Romain à Sèvres, il suffit de descendre par le tramway qui va jusqu'à la Défense, hein, de la porte de Versailles à la Défense, vous descendez à Sèvres, vous avez la manufacture musée de porcelaine de Sèvres, et puis vous allez dans le vieux Sèvres, et puis ensuite vous allez tomber sur l'église Saint-Romain. C'est extrêmement simple. Moi, je suis allé faire un petit tour et plein de photos il y a quelques années, et c'est extrêmement intéressant car les fondations de cette ancienne église sont toujours là, et surtout il y a une plaque dédicatoire de tous les fondateurs bienfaiteurs de cette église, jusqu'à des personnages récents qui ont fait des dons pour qu'elle soit restaurée, ce que l'on trouve absolument dans tous les édifices religieux voire publics dans notre monde, hein. Il y a rien là-dedans d'étonnant. Mais néanmoins, tout en bas, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, il y a écrit que Dagobert II, hein, Saint Dagobert II, a été le fondateur de cette église. Alors, pour quelle raison? C'est extrêmement curieux, d'autant plus que la date de sa fondation colle à peu près effectivement avec les dates de vie, en tout cas de Dagobert II, même si c'est peut-être un an avant son règne. Néanmoins, il s'agit de quelque chose d'extrêmement troublant. Et dans cette même église, et je l'ai déjà dit, et on en revient, à la mystique de la royauté elle-même française, hein, il y a une énorme toile du peintre Flandrin, hein, une énorme toile qui est à l'entrée de cette petite église et qui représente Jeanne d'Arc. Alors là, c'est bien plus tard, hein, on est pratiquement 800 ans plus tard. Jeanne d'Arc, donc, qui, à la fin de son épopée, on est au 15e siècle, hein, eh bien, se recueille un moment avant de mener la fameuse bataille pour tenter de libérer Paris des Anglais. Et puis on sait bien, elle va échouer, et c'est là qu'elle sera capturée et ensuite brûlée, jugée et brûlée à Rouen. Voilà. Alors, pourquoi avoir mis ça? Alors, l'historiographie indique que Jeanne d'Arc n'est jamais venue là, que tout ça est une histoire inventée, mais on peut se poser la question. Et moi, je continue de me la poser pour ma part. Si un jour j'ai le bonheur d'être en retraite et d'avoir le temps de ne faire plus que ça, je pense que je me consacrerai en tant qu'historien à rechercher les choses sur toute cette histoire, parce que je pense qu'il y a à la base, très certainement, des histoires romanceaux-historiques de Plantard, quelque part un fil rouge, comme on pourrait dire aujourd'hui, historique, extrêmement intéressant, et qui est totalement occulté, totalement mis de côté, parce que peut-être tout simplement noyé, hein, sous tout un tas de, comment dire, de dérives, hein, qui ont en gros, si on peut dire, ridiculisé le sujet. Alors fort heureusement aujourd'hui, et ça je ne dévoile pas ce qu'on fera avec Cédric sur la question de Rennes-le-Château, mais heureusement, fort heureusement aujourd'hui, un certain nombre de chercheurs sérieux publient de nouveau et publient de plus en plus sur tout cela avec des documents à l'appui. Et commence à se dégager, hein, au-delà aussi peut-être de tout le mal qu'a pu faire un film comme Da Vinci Code, qui bon, est une sorte de patchwork de Salmi Gourdi, un peu de tout cela mélangé à la sauce hollywoodienne, ces auteurs-là, je pense, commencent aujourd'hui à redégager cette fameuse histoire parallèle qui devait être connue, je pense, dans la tradition du monde ancien, c'est-à-dire celui d'avant la Révolution française. C'est pour ça que souvent ces histoires-là sont associées, à mon avis à tort, au milieu monarchiste, au milieu ultra-conservateur. Alors qu'en fait, il ne s'agit pas du tout de ça, il s'agit simplement de ressortir une histoire beaucoup moins connue que l'histoire officielle et qui comporte effectivement des clés qui nous permettraient certainement d'éclairer bien des aspects de ce qui nous intéresse. Et c'est certain qu'à ce titre, cette dynastie mérovingienne qui a été tellement faite néant, dont on a fait néant, les rois fainéants qui ont été faits néant, c'est parfaitement exact ce petit jeu de mots, en mode de langue des oiseaux. Ben oui, bien sûr que ces rois fainéants, ça n'était pas du tout cela. J'ai essayé de montrer en un peu moins d'une heure que ces rois ont été des bâtisseurs, sur le grand règne de Clovis et de ses successeurs, poursuivis ensuite dans la période transitoire par ceux qui allaient devenir plus tard les Carolingiens, et consolidés par l'empire de Charlemagne. On arrive en 814 à un empire absolument immense, et il est évident par-dessus le marché qu'il y a une continuité entre la dynastie mérovingienne et carolingienne, alors que nos bons livres d'histoire nous racontent qu'en gros Charlemagne est arrivé pour établir l'ordre, pour remettre tout en place, parce que c'est un abominable roi fainéant qui avait tout gagné, disons, de l'héritage de Clovis, parce que c'est vrai que Clovis, quand même, on l'aime bien dans les livres d'histoire. Alors, voilà, je pense que c'est ça le travail de l'historien, et moi-même, dans ce petit topo, j'essaye un peu, d'essayer de recentrer le débat, comme on dit, et nous continuerons au travers de toute ces périodes historiques, souvent inconnues, à essayer de dégager des pistes nouvelles, et surtout, toujours avoir à l'esprit, et je conclurai là-dessus, qu'il ne faut jamais dans la science historique, pour le peu qu'elle soit sérieuse bien sûr, écarter les hypothèses, de jamais s'imaginer que les choses sont établies, mais qu'au contraire, et ça devrait être le cas également, c'est le cas aussi dans les sciences exactes, la science historique n'est pas une science exacte, c'est exact, c'est vrai, mais la science historique fonctionne de la même manière, et un bon historien ne doit pas, négliger aucune piste jamais tant qu'elle n'est pas été avérée comme fausse, et je crois que c'est ça le ferment même de l'histoire qui ne peut s'exercer que par passion. Je ne ferai pas d'enseignement de l'histoire comme je le fais, d'émission comme je le fais maintenant depuis plusieurs années, si tout cela ne me passionnait pas profondément. Et j'espère en tout cas que cette petite promenade dans le très haut Moyen-Âge, dans les débuts du 6e siècle, la fin du 5e siècle, vous aura un peu éclairci ce soir sur la dynastie des Mérovingiens. Je vous donne rendez-vous fin mars pour la prochaine, et dont je vous réserve évidemment la surprise, bien sûr. Et je vous dis à très bientôt. C'était Histoire du soir avec Olivier, numéro 13 du nom, et consacré ce soir aux Mérovingiens. Au revoir, à bientôt.